Et Jérémia a parlé de Jésus. Et c'était symptomatique, quelque part. C'était ce que j'attendais. Et j'étais vraiment heureux parce que je me disais, voilà, notre pasteur, celui que nous avons choisi, celui pour lequel nous avons fait notre choix, nous a guidés et a présenté à la salle, aux 1000 personnes qui étaient là, notre engagement envers Jésus. Donc je voulais te remercier parce que ça nous réconfortait, voilà, dans notre choix de suivre Jésus, d'affirmer haut et fort nos convictions et de dire que voilà, nous n'étions pas des chrétiens juste pour faire beau, mais nous avions un vrai engagement envers Christ. Et ce qui est très marrant, c'est que je parlais avec une sœur qui me disait, tiens, c'est marrant parce que elle avait vu un peu ce qu'on avait préparé pour aujourd'hui. Et elle me disait, tiens, c'est marrant parce qu'on va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire parler à des gens qui n'ont pas forcément la même culture que nous, qui ne croient pas à la même chose. Et effectivement, je ne me rendais pas compte à quel point elle avait raison, jusqu'à ce que je prenne un peu de recul et que je me dise, c'est vrai, quand Paul arrive à Athènes, c'est un monde complètement inconnu. Parce que ce matin, nous allons continuer dans le livre des Actes. Et on va lire ensemble le passage en Actes 17, où Paul arrive à Athènes. Donc c'est la deuxième partie d'Actes 17. Si vous avez vos Bibles, nous allons prendre Actes 17, du verset 16 au verset 34. Alors, pour vous situer un peu le contexte au départ, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul, au travers duquel, en fait, il fait le tour des églises qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire en Asie mineure, et il déborde un peu de l'Asie mineure, et donc il entame un peu sur la Grèce, et fait tout le tour de la Grèce depuis la Turquie. Donc ce voyage-là, ce deuxième voyage missionnaire, il va durer 3 ans et il va s'étendre sur 5600 kilomètres. Donc c'est vraiment un long voyage par lequel il va fortifier un nombre incroyable d'églises. On se situe dans son périple au moment où il quitte Bérée, donc qui est situé au nord de la Grèce. Il a enseigné à des Juifs et il arrive à Athènes. Alors Athènes, c'est évidemment un lieu un peu particulier, vous imaginez. C'est la capitale de la Grèce. Et à ce moment de l'histoire, l'Empire romain a conquis dans le bassin méditerranéen ce que Alexandre le Grand avait lui-même fabriqué, l'Empire grec d'Alexandre le Grand, qu'il avait construit 300 ans avant. Donc c'est un lieu emprunt d'histoire parce que c'est l'endroit où on parle la langue la plus répandue dans le bassin méditerranéen à ce moment-là, le grec. Ce qui fait aussi que vous trouvez une version complète de la Bible en grec, la Septante, parce que justement, c'est la langue la plus répandue à ce moment-là dans le bassin méditerranéen. Athènes, le contexte, il est simple. C'est des dieux en nombre impressionnant. Les Romains se sont juste contentés de transposer ce que les Grecs avaient amené avec des nouveaux noms. Donc vous trouverez tous les dieux romains sont des dieux grecs, mais avec un autre nom. Donc on trouve des temples à tous les coins de rue, on trouve des statues à tous les coins de rue, et puis c'est le pays des philosophes, parce que la Grèce, sans les philosophes, ce ne serait pas la Grèce. J'en ai noté quelques-uns, alors c'est dans l'ordre pseudo-chronologique, parce que je ne suis pas forcément un érudit en philosophie. Vous connaissez peut-être moins Démocrite que Socrate, Platon et Aristote, mais sachez qu'ils viennent tous de Grèce. Ils ont tous des pensées plus ou moins différentes, sur des sujets plus ou moins différents, sur des façons d'aborder la vie plus ou moins différentes. Donc, ça fixe un contexte un peu hétéroclite, où Paul arrive en se disant, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on va voir dans le texte que sa réaction est tout à fait étonnante. Et sachant que dans le contexte-là, il est seul, parce qu'il attend Silas et Timothée qui doivent revenir de Bérée, avec qui il était. Avant de lire, je vous propose de prier avec moi. Seigneur, merci parce que ta parole est riche d'enseignements. parce que ta parole nous a été transmise pour que nous connaissions tes plans pour nous, pour que nous sachions comment nous comporter, comment réagir, comment parler aux gens, comment parler à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous prions ce matin pour que ton esprit ouvre nos yeux, pour que ton esprit ouvre nos cœurs, pour que nous puissions comprendre la portée de ton enseignement, pour que nous puissions savoir ce que tu attends de nous, pour savoir quel est le plan que tu as pour nos vies, Seigneur. Nous prions chacun à notre niveau, chacun là où en est notre foi, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions saisir ton appel, quel qu'il soit pour nous ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez trouvé le passage, nous allons pouvoir lire ensemble. Acte 17, du verset 16 au verset 34. Comme Paul les attendait à Athènes, donc Silas et Timothée, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, ils disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et ils le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira au milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. La différence de réaction avec les Juifs à la Pentecôte est assez flagrante. Parce qu'on a vu, on a déjà vu le contexte historique. Maintenant, il faut expliquer un peu le contexte personnel de Paul. La première chose importante à noter, c'est qu'il est tout seul à Athènes. Il attend Silas et Timothée, et c'est une des premières fois qu'il se retrouve seul. En général, les missionnaires sont envoyés à deux. Depuis le début du deuxième voyage missionnaire, il se retrouve donc tout seul et il se retrouve confronté tout de suite à une ville comment dire, à laquelle il n'était pas habitué. C'est vrai qu'à Jérusalem, Jérusalem, c'était la ville qui se targuait d'être une ville sans idole, et là, il est exactement dans la ville inverse. Et ce qui est marrant, c'est que d'emblée, Paul, il n'attend pas. Paul, il attaque. C'est-à-dire qu'il arrive dans cette ville, il les voit vouer aux idoles, son zèle pour Dieu bout à l'intérieur de lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Paul, c'est un apôtre de l'action. Il ne reste pas sans réagir. Au verset 17, il est rappelé qu'il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Paul ne fait pas de distinction, il parle avec tout le monde. Il va à la rencontre de ceux qui sont là. Ça, c'est le caractère de Paul. Parce que Paul ne peut pas ne pas annoncer la parole. D'ailleurs, il le rappelle aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 4, au verset 13. C'est l'écriture, si vous voulez, vous pouvez venir me voir, je vous donnerai quelques références. J'en ai un peu moins que Jérémia la semaine dernière, bon, j'en ai quelques-unes si vous voulez, mais si vous voulez, vous pouvez venir me voir à la fin. Et Paul rappelle aux Corinthiens, qui sont aussi des Grecs, qu'il va voir juste après les Athéniens, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons. Paul est mu par sa foi. Et sa foi, elle se manifeste dans le fait qu'il parle. Dans le fait que quand il voit quelque chose, il ne peut pas s'empêcher de parler. Il ne peut pas ne pas parler et ne pas annoncer la bonne nouvelle. Ceci étant dit, le contenu des discussions qu'il a avec les Grecs, c'est très instructif. Ésaïe 55, verset 11, Dieu dit que sa parole ne peut pas rester sans effet, elle ne peut pas revenir à lui sans effet. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de voir de quelle façon l'enseignement et la parole ne puissent pas revenir sans effet. Paul ne fait pas que démontrer l'existence de Dieu, parce que c'est ce qu'il va faire. Mais il va aussi, d'une certaine manière, nous inciter à nous examiner, à voir comment nous nous comportons vis-à-vis de la parole qui est portée. Il y a trois grandes parties dans le texte qui ne suivent pas forcément la chronologie du texte, hein. Il y a d'abord la rencontre avec les philosophes, de quelle façon elle se passe, de quelle façon elle se déroule. L'annonce de la doctrine nouvelle, parce que pour eux, c'est un chamboulement. Vous allez voir que les Grecs ont plein de pensées, ils croient plein de choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils croient. Et enfin, leur réaction, parce que on a bien vu dans le texte qu'il y a une réaction qui est certes pas forcément celle attendue, mais il y a une réaction qui nous apprend des choses aussi sur nous-mêmes. Pour commencer, la rencontre avec les philosophes, Paul arrive dans un environnement un peu spécial. Donc il y a des faux dieux partout. Enfin, imaginez, vous promenez dans une ville où vous voyez des statues, les fameuses statues grecques, à tous les coins de rue. Mais il n'y a pas que des statues, il y a aussi des temples consacrés aux dieux. Donc finalement, en fait, Athènes, c'est une espèce de vitrine. C'est un peu les marchands ambulants au pied de la tour Eiffel. Mais grandeur nature, avec des temples grandeur nature et des statues grandeur nature qui représentent les dieux sur 3-4 mètres de haut. Là-bas, il y a aussi des philosophes, comme je vous l'ai dit en introduction. Si vous voulez un peu voir qui sont les philosophes de là-bas, on a, donc le texte dit, les stoïciens et les épicuriens, mais il y en a d'autres. On trouve des aristotéliciens, qui sont des disciples, entre guillemets, d'Aristote. On trouve des platoniciens, qui suivent les enseignements de Platon. Voilà. Alors, tous ces philosophes, ils ont des idées très arrêtées et avec une constante, c'est qu'elles sont toujours divergentes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent jamais la même chose sur jamais aucun sujet commun. Et donc, dans la ville, comme on trouvait des stoïciens d'un côté, des épicuriens de l'autre, à chaque fois, il y avait une bataille d'idées parce que les gens ne parlaient pas de la même chose au même moment. Donc en gros, c'était des dialogues de sourds sans arrêt. Moi, je pense que si, oui, mais moi, je pense que ça, oui, mais on ne parle pas de la même chose. Bon, donc c'est pas grave. La philosophie grecque, elle est complètement éloignée, mais alors à l'opposé, diamétralement opposée à la façon de penser de Dieu. C'est aux disciples de Rome, d'ailleurs, Paul parle de ceux qui s'appuient sur une forme de sagesse qui n'en a que l'apparence. Parce que justement, il se rappelle sa vision de ces philosophes à Athènes, et il dit aux Romains, au Romains 1, au verset 21 et 23, « Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. » Dans ses épîtres, Paul met toujours l'accent, excusez-moi, et il avertit très régulièrement sur ceux qui se lancent dans des discours de surface, qui n'ont pas de fond, et qui n'amènent à rien. Et typiquement, à Athènes, on est exactement dans le sujet. Quand Timothée le rejoint, un peu plus tard, il écrira à Timothée, dans 1 Timothée 1, versets 3 et 4, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Merci. Merci beaucoup. Plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Je vais vous dresser le portrait très rapidement des épicuriens et des stoïciens pour que vous compreniez à quel point le discours de Paul va être annoncé dans une espèce de terreau complètement pas fertile du tout. Les épicuriens sont matérialistes, ils sont athées pratiquants, ou du moins ouvertement. Ils n'admettent l'existence que, éventuellement, de Dieu, avec un petit dé, qui ne s'intéresse à personne. Pour les épicuriens, les dieux sont des gens qui s'amusent, qui sont comme des enfants gâtés. Partant du principe que, de toute façon, la chair est mauvaise, alors autant s'y adonner dans tous les excès. Les épicuriens sont marqués par l'indifférence de l'homme, insensible à ses péchés. Donc comment se repentir quand on est insensible à ses péchés ? Et aveugle à l'égard du vrai Dieu qui a donné son Fils unique pour eux. Ça, c'est les épicuriens. Les stoïciens, eux, ils sont panthéistes. Ils excluent également l'existence d'un Dieu unique. Forcément, vous allez me dire, c'est sûr qu'à Athènes, pour admettre l'existence d'un Dieu unique, c'était un peu compliqué. Ils excluent l'existence du Dieu unique, vivant et vrai, auquel toute âme doit avoir affaire. Encore une fois, pour la repentance, c'est un peu compliqué. Ils soutenaient que notre monde a une âme, pourtant, qu'il tenait pour Dieu. Donc il y a une âme. Mais ils croient quand même que l'âme est un corps. Je ne sais pas si vous suivez jusque-là. Mais moi, j'ai eu du mal. Hein. Je vous avoue que c'est compliqué. Il y a une âme, mais en fait, le corps et l'âme sont mélangés. Et en fait, il n'y a qu'un corps. Mais il y a une âme. Mais, enfin, bon. Mais l'âme de toute chose, dont les âmes des animaux font partie, est impérissable. Je sais, c'est compliqué. Les stoïciens sont marqués par l'autosuffisance hautaine, qui s'admire elle-même, qui discourt sur la vertu et qui dédaigne de reconnaître les péchés et de recevoir un sauveur de la part de Dieu en Jésus. Voilà les personnes à qui Paul fait face quand il est à Athènes. Donc imaginez devoir annoncer la bonne nouvelle qui consiste à se dire que par la repentance, vous arrivez à la foi, par la foi, vous pouvez être sauvé par le sacrifice de Jésus. C'est pas forcément si simple que ça. Voilà. Qui rencontre ? Il rencontre des philosophes. Vous en connaissez certainement quelques-uns, BHL, André Glucksmann, j'avais noté Michel Onfray. En même temps, il faut prendre son courage à deux mains pour aller voir de telles personnes. Non, alors, ceux qui se posent la question, j'ai beau avoir la même coiffure, je ne suis pas philosophe. Dieu m'en garde. Donc il faut prendre son courage à deux mains pour aller voir des gens comme ça. Parce que imaginez voir BHL dans la rue et lui dire « Attendez, j'ai un truc à te dire. Je sais ce que tu crois, je connais un peu ce que tu as dit. Non, mais j'ai parlé d'un sujet important. » Il faut prendre son courage à deux mains parce que dans notre société moderne, leurs pensées, leurs idées, tout ça, c'est leur dieu. Ça devient nos dieux. C'est ce à quoi on s'attache. D'ailleurs, Paul en parle de nouveau à Timothée, en 2 Timothée 4, au verset 2, du courage qu'il faut prendre dans toutes les circonstances. Je pense que certains connaissent le passage. Je vous laisse le prendre et le lire vous-même. Parce que c'est la clé de la vie de Paul dans sa façon d'aller annoncer l'évangile. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Plus je lis ce que Paul a écrit à Timothée, plus je me dis qu'il a été marqué par sa visite à Athènes. Et on peut le comprendre. Ce qui est très étonnant, c'est que ces philosophes-là sont des gens qui aiment la sagesse. Un début de réponse à la question « Comment parler à de tels hommes ?» Parce que nous aussi, dans nos vies de tous les jours, on est amenés à croiser des gens comme ça, qui pensent avoir des avis sur tout. « Oui, mais moi, oui, je pense que oui, mais bon, voilà. » Comment on peut parler à des gens comme ça? Samuel, dans les Proverbes, Proverbe 9 au verset 10, il rappelle que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je rappelle que philosophie, en grec, c'est un mot grec, qui veut dire l'amour de la sagesse. Je pense que vous l'avez appris à l'école, mais je le rappelle quand même. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais les philosophes sont des gens qui aiment tellement la sagesse qu'ils ne connaissent pas Dieu. Qui pourtant, de la bouche de Salomon, c'est le début de la sagesse, c'est de connaître Dieu. Donc il y a quelque chose qui, quelque part, s'est perdu. Après Athènes, d'ailleurs, Paul se rendra à Corinthe, et il écrira plus tard aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 3 au verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Les Grecs ont besoin de se faire rappeler que la sagesse des hommes est folie devant Dieu, et que nous n'avons pas la même façon de penser que Dieu. Jacques rappelle au chapitre 3, au verset 15, que cette sagesse des hommes n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Pour parler à des philosophes, Paul va parler à la façon d'un fou, à leurs yeux. Mais il va adopter le discours de la sagesse de Dieu. Les Grecs sont friands des nouvelles histoires. Ça, c'est ce que le texte rapporte. Même s'ils écoutent de loin, même s'ils écoutent de haut, et surtout, pour ne pas en tirer un enseignement. Ça rentre là, ça ressort là. Mais Dieu va agir pour que Paul annonce la doctrine de la réconciliation, parce que c'est le fond de l'histoire, c'est d'annoncer la doctrine de la réconciliation. En marchant dans les rues de la cité grecque, Paul est outré par l'idolâtrie, on l'a déjà dit, et le comble, c'est évidemment cette stèle marqué à l'inscription à un dieu inconnu. Alors, ça fait 17 ans que je suis chrétien. La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été sidéré. Je me suis dit, comment on peut en arriver à mettre une stèle à un dieu inconnu ? Ça m'avait frappé. Et c'est justement ça, cette occasion-là, que Paul saisit pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est frappant, c'est de se dire, il y a un dieu inconnu, on vénère un dieu inconnu, et bien les gars, je suis là pour vous l'annoncer. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. En pensant au dieu inconnu, moi j'ai toujours pensé au soldat inconnu. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est pareil. Et puis le 11 novembre, c'était pas très loin. Et je sais pas si certains ont la même réaction. Je me dis, voilà, j'ai lu une stèle à un dieu inconnu. Et puis moi je me dis, ah, il y a une stèle à Paris, le soldat inconnu. Mais alors c'est qui y a dedans ? Parce que je sais pas. Comme il est inconnu, forcément. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du soldat inconnu ? Parce que ça se trouve, ça va peut-être m'aider à comprendre. Dieu avait fait germer cette idée dans ma tête. Regarde l'histoire du soldat inconnu. Bon. L'idée du soldat inconnu, et de lui donner une stèle commémorative, est née en 1920. Moi, je pensais que c'était plus vieux. À la fin de la Première Guerre mondiale. On voulait rendre hommage à l'ensemble des soldats en rendant hommage à ce soldat inconnu-là. Justement parce qu'il n'avait pas d'identité, il permettait de couvrir l'ensemble de tous les soldats, de toute l'armée. Le soldat inconnu, d'une certaine manière, c'est l'ensemble des soldats, c'est toute l'armée. Et finalement, je me dis que ce Dieu inconnu, Paul, dans son discours, l'amène à l'état de Dieu qui est tous les autres dieux à la fois. C'est-à-dire que finalement, on retrouve le dieu de truc, le dieu de machin, le dieu de la guerre, le dieu de la... Il pourrait y avoir le dieu de la cuisine, ou je sais pas trop quoi. Mais finalement, Paul arrive à amener, parce que l'esprit lui dit, à comprendre que ce dieu-là, que les Grecs vénèrent sans le connaître, ben finalement, c'est le dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Qui est tous les dieux. Quand on étudie le texte, ce qui est étonnant, c'est que Paul avance des idées qui sont totalement contraires à ce que les Grecs connaissent. D'abord, Paul dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de la main d'homme. C'est dommage, parce que tous les temples qui sont là, ils ne servent plus à rien. Donc vous pouvez tout détruire, vous gagnerez de la place, vous pourrez construire des maisons à la place. Ensuite, Dieu n'est pas fait d'or, n'est pas une sculpture. Alors, deuxième chose, pour une ville où on n'a que des statues et que des temples, bah, en gros, vous pouvez tout raser, et il ne restera plus grand-chose. Quoi. Dieu veut que chacun ait à se repentir. On arrive dans un moment du discours bien plus profond, parce que, messieurs les Grecs, vos péchés, même si vous pensez qu'ils n'ont pas de réalité, même si vous pensez qu'ils n'existent pas, eh bien, sachez qu'ils sont réels. Et sachez qu'ils ont une conséquence. Dieu est juge des péchés du monde. Donc, non seulement vos péchés existent, mais en plus, ils méritent un salaire. Et enfin, il y aura une résurrection et un jugement pour tous. C'est là que les Grecs, pour eux, le vase commence à déborder. Et les Grecs, qui pensaient mourir et vivre tranquillement, en sont pour leurs frais. En parlant avec une sagesse qui vient de Dieu, Paul passe pour un fou aux yeux du plus grand nombre. Maintenant, la conséquence du texte, elle est pour nous. Si nous avons mis notre confiance en Christ, de quelle façon est-ce que nous l'annonçons ? En prenant exemple sur Paul. Est-ce que nous sommes prêts à passer pour des fous dans un monde où plus personne ne croit en rien en citant les Écritures, en annonçant Christ ? Hier, c'est ce que nous avons fait, nous avons chanté. Nous avons chanté que Jésus avait mes péchés. Ça restait un chant. Quand il s'agit d'aller dans les villes, d'aller à notre travail, d'aller rencontrer les gens autour de nous, que nous savons que ces gens-là n'ont pas forcément la même philosophie que nous, qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est la résurrection ? Au secours !» Quelle est notre attitude ? Est-ce que nous connaissons les Écritures pour nous aider à soutenir ce dont nous parlons ? Après avoir parlé, les Athéniens, évidemment, réagissent. Et c'est là la bonne nouvelle. Alors, effectivement, ils réagissent de loin pas comme les Juifs, à la Pentecôte, parce qu'ils se montrent très réticents lorsque Paul aborde le vrai fondement de la nouvelle théologie qu'il vient d'annoncer. À la simple mention de l'idée de résurrection des morts, ils se moquent et ils s'éloignent. Rappelez-vous, verset 32, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent et les autres dirent, excusez-moi, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » À la simple mention de l'idée de la résurrection des morts, ils se moquent, ils s'éloignent. Alors que même l'enseignement de Paul, l'enseignement clé, c'est la résurrection des morts. À Corinthe, il y aura la même chose. Les Grecs auront de nouveau du mal à croire à la résurrection, auront du mal même à s'attacher à la résurrection comme étant la clé de la doctrine nouvelle que Paul vient annoncer. Il est obligé de leur écrire en 1 Corinthiens 15, du verset 14 au verset 19. Je vous laisse suivre avec moi. 1 Corinthiens 15, du verset 14 à 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'annonce de la résurrection de Jésus est la clé de l'annonce de cette bonne nouvelle que Paul fait aux Athéniens. La résurrection, mais évidemment tout ce qu'elle induit derrière. Notre justification et le ministère de la réconciliation que Paul décrira aussi de façon très, très, très détaillée aux Corinthiens. Personnellement, en voyant comment Paul annonce la bonne nouvelle à Athènes, je me dis que j'ai quelque chose à changer dans ma façon de partager ma foi. Parce que parfois, je suis un peu superficiel. Enfin, je ne sais pas si parfois vous vous sentez aussi dans le même cas. On peut se sentir superficiel de ne pas aborder ces sujets qui sont des sujets clés. Paul n'hésite pas à aborder ces sujets clés avec des gens qui pourtant manifestent un rejet et un dédain pour ce genre de connaissances. Nous pouvons mettre l'accent sur la résurrection du Christ et de ses conséquences par rapport à notre justification envers Dieu. Les gens qui écoutent Paul réagissent de façon différente. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte, justement, que tout le monde n'est pas convaincu. En général, jusque-là, les gens étaient convaincus. La Pentecôte, tout le monde est convaincu. 3 000 baptisés le premier jour, 5 000 après. Et là, le texte précise qu'un certain nombre s'attache à ce qu'a dit Paul. Mais finalement, de façon très, très peu nombreuse. On est loin du discours d'Acte 2, au verset 37, qui dit que, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » On est exactement à l'extrême inverse en termes de réaction. Il y a de nombreuses personnes qui ne consentent pas à croire ce que dit Paul. La différence, c'est que l'annonce est faite à des païens. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que de parler à des juifs. Mais la vraie question, sur le fond, c'est Est-ce que les Athéniens étaient prêts à accueillir la parole? Et la question se pose à chaque fois qu'on va parler, nous, de notre foi, à ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir la parole? La parabole du semeur rappelle que tout le monde ne reçoit pas la parole de Dieu de la même façon. Chez les Grecs, on se retrouve clairement dans le cas des graines mangées par les oiseaux au bord du chemin. Parce que l'idolâtrie des Athéniens envers leur propre intellectualisme les aveugle au point de ne plus reconnaître la vraie sagesse. La philosophie, l'amour de la sagesse, celle qui permet de se rapprocher de Dieu, comme l'avait expérimenté Salomon. Le texte précise au verset 34 que quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Et ça, quelque part, ça me rassure. Je me dis, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. C'est une certitude. Quand vous annoncez la parole, elle ne revient jamais à Dieu sans effet. Si Paul dit à Timothée, insiste, prêche en toute occasion, favorable ou non, c'est vrai pour nous aussi. Ne vous lassez jamais d'annoncer la parole parce que vous ne savez pas comment Dieu peut répondre. Vous ne savez pas comment Dieu fait pousser les graines que vous semez dans le cœur des gens à qui vous parlez. Les Athéniens ont montré une opposition franche parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu appelle la sagesse. Et pourtant, Paul a atteint son but, celui qu'il poursuit, ce qui le motive. Qu'est-ce qui motive Paul au fond de lui? En 1 Corinthiens 9, du verset 20 au verset 22, il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, quoique sans loi, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. S'il n'a pas convaincu les Grecs, il a pris part à l'annonce de l'Évangile envers ce peuple de philosophes. Et c'est ça le plus important. C'est que partager sa foi avec des gens qui n'ont pas la même foi que vous, ça n'est jamais partie gagnée. On ne sait jamais ce qui va en ressortir. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de savoir dans quelle terre va tomber la graine qu'on va semer? Ou est-ce que c'est le fait de semer? Que ta main ne se lasse pas de semer. Il y a aussi une question pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas encore mis notre confiance en Jésus. Si c'est votre cas, vous avez deux choix. Soit vous êtes comme ces philosophes grecs qui mettent leur fierté dans leur façon de penser, dans toutes les pensées qu'ils développent, dans leur façon de croire. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'écouter et de faire ce à quoi Dieu vous appelle. Si vous vous posez la question, c'est déjà une bonne chose, vous avez reçu la parole, ne laissez pas les oiseaux retirer la semence de votre cœur. Si vous vous posez des questions, allez voir le pasteur à la fin pour lui poser toutes vos questions, pour lui dire « oui, je suis, voilà, je me pose des questions, j'avance, mais je ne sais pas comment ». Mais ne laissez pas les oiseaux retirer la semence de votre cœur. Vous l'avez reçue, faites-la éclore. En conclusion, pour la première fois, Paul est confronté à l'annonce de la parole en solitaire. Il est impatient d'aller à la rencontre des philosophes idolâtres, de les confronter pour leur apporter la vérité de Jésus, qui est le Christ ressuscité conformément à tout ce qu'annonçaient les prophètes. C'est bien plus qu'une simple histoire que toutes celles qu'ils se racontent à longueur de journée. L'attitude de Paul, enfin, nous renvoie à notre propre façon d'annoncer Christ. Est-ce que nous nous arrêtons lorsqu'il s'agit de parler à tel ou tel? Non, lui, je ne peux pas lui parler. Ma femme m'a dit une fois, oh, c'est super. J'ai rencontré Johnny Depp sur le tournage d'un film, je suis allé le voir et puis je lui parlais de Jésus. Ah, bon. Ok, c'est sûr. Voilà. Et puis je pourrais en citer plein, des comme ça. Hein. C'est. Ah, j'ai rencontré machin, je lui parlais de Jésus. Ah. Et puis moi, je me dis. Oh là là. Bon, une fois, j'ai rencontré Jane Birkin, j'ai parlé de Jésus. Mais voilà, est-ce qu'on a cette attitude à se dire. J'annonce Jésus, j'annonce pas une pensée X ou Y, mais c'est quelque chose qui va révolutionner la vie de celui à qui on va parler. Ou est-ce qu'on s'arrête à la difficulté, ou est-ce que, comme Paul, on pense que l'évangile peut être prêché en tout temps, en tout lieu, et à tous, indistinctement. Je vous rassure, je me pose la question aussi. Hein. Est-ce que notre but à nous aussi, c'est de nous faire tout à tous? Est-ce que nous bloquons sur des éléments clés de la bonne nouvelle, notamment sur la résurrection? S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, demandez. Parfois, on a besoin de se faire expliquer les choses parce qu'on n'a pas bien compris. C'est difficile d'aller annoncer des choses qu'on n'a pas bien compris nous-mêmes. Une fois, j'ai eu affaire à des mormons à Bussy, parce qu'il y en a plein. Enfin, il y en a plein. C'est les deux mêmes, mais ils tournent. Et puis des fois ils changent. Et comme je savais pas comment aborder le sujet avec eux, je suis allé voir Craig. Et Craig m'a donné des conseils qui m'ont été d'une utilité incroyable. Parce qu'il savait où trouver les réponses à leurs questions. C'est plus facile d'apporter les réponses quand on connaît les questions. Enfin, si vous n'avez pas encore choisi de connaître Christ comme Sauveur et Seigneur, Paul résume simplement la nouvelle alliance au verset 30 de ce texte qu'on a lu aujourd'hui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Si vous n'avez pas encore choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous repentir. Voilà ce que vous avez à faire pour connaître cette paix que Dieu vous promet. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu juges à la fin selon notre foi. Et Seigneur, ton désir ardent, c'est que chaque homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il puisse être sauvé. Ton désir, c'est de n'en perdre aucun, c'est que tous soient sauvés. Cette nouvelle, elle est incroyablement révolutionnaire parce qu'elle nous met devant toi, devant ton caractère qui est d'aimer l'homme à un point qu'on n'imagine pas. Permets-nous, Seigneur, d'aller dans le monde, permets-nous d'annoncer ta parole sans crainte, à l'exemple de Paul qui ne s'est pas arrêté simplement parce qu'il avait en face de lui des philosophes qui avaient plein d'idées sur plein de choses. Il n'a pas hésité, Seigneur, à parler des précepte important pour faire comprendre que tu es le Christ, que tu es celui que Dieu a ressuscité des morts pour que nous puissions être justifiés. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en toi, Seigneur, que tu les fortifies, que tu leur donnes de ne pas rester insensibles à la parole qu'ils ont reçue. Parce que ton désir, c'est qu'ils soient sauvés aussi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Sébastien. Avant de chanter notre dernier chant, je voulais aussi vous signaler par rapport à ce que Sébastien disait, d'avoir des réponses à nos questions et avoir des réponses pour les questions des autres. Aujourd'hui, à Logne, le centre évangélique commence à 14h et c'est une très bonne occasion de trouver des livres, des ressources pour approfondir notre connaissance de notre foi. Et donc, je vous encourage, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, il suffit de taper Centre évangélique Logne et vous allez trouver. Et ça sera aujourd'hui et demain et le lendemain. Et aussi, je voulais vous signaler que la semaine prochaine, on va commencer, ou le dimanche prochain, on va commencer une semaine de prière et de jeûne dans cette église. Ça sera pour nous un moment de venir devant Dieu et être à son écoute. Et donc, je vous encourage de venir la semaine prochaine avec cette idée en tête, de commencer cette semaine de jeûne ensemble. Je vais apporter un message là-dessus pour qu'on puisse bien comprendre ce que ça veut dire jeûner. Et donc, je vous invite à venir avec cette attente. Alors, levons-nous pour chanter notre dernier chant.